je tiens à votre disposition. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps, ou le courage, tous les deux, pour suivre la recette que je vous ai passée la fois passée. C'est-à-dire lire un certain nombre de textes de d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Nous allons voir ce que cela va donner, mais avant cela, peut-être encore un peu faire le point sur ce que nous avons vu. Nous sommes donc à nous poser la question du sens de l'histoire. Quel est vraiment le sens de notre histoire? Et nous pouvons aujourd'hui, et en ayant nos images d'aujourd'hui, c'est-à-dire celles que nous donne la télévision généralement, en ayant ces images en tête ou devant les yeux, nous pouvons nous poser la question, où va ce monde? Quel en est le sens? Est-ce que tout le monde prend conscience? Et lorsqu'il y a des débats publics, des débats électoraux, comme nous en voyons tout autour de nous pour le moment, hein, où on défend chacun son programme, à quoi ça arrive-t-il? Quelle est la signification? Pourquoi y a-t-il tant de mal à se mettre d'accord? Voilà toutes sortes de questions qui se posent sur le sens de notre histoire aujourd'hui. Tel que l'Apocalypse nous livre le sens de l'histoire, c'est le combat spirituel entre Dieu, vainqueur de la mort, et toute espèce de forme d'idolâtrie. Combat spirituel à deux niveaux, il faut bien nous en rendre compte. Combat spirituel sur le plan personnel, c'est celui généralement que nous vivons lorsque nous faisons une retraite, par exemple, lorsque nous suivons les exercices de Saint-Ignace, c'est un combat spirituel qui se livre. Quelles sont les véritables valeurs dont nous vivons? Est-ce que ces valeurs sont uniques? Est-ce qu'elle se résume en un point ou bien est-ce que nous n'avons pas encore fait l'unité dans notre existence? Mais ce que nous dit l'Apocalypse, c'est que ce combat se joue également au niveau de la collectivité humaine. Et l'enjeu, c'est celui, bien sûr, de nos destinées. Ces destinées qui sont représentées dans le texte par des coupes. Et cette image de la coupe vient du chapitre 25e de Jérémie. Il prend l'image de la coupe comme étant le symbole de la destinée humaine. Une destinée où nous infléchissons de temps en temps nos orientations et nous en subissons d'autres. Et qu'est-ce que nous faisons avec tout ce qui nous est donné, tout ce que nous vivons? Et ce qu'on appelle la colère de Dieu, c'est son cri de souffrance, parce qu'il nous dit, dans toute la Bible d'ailleurs, qu'il est personnellement atteint par ce que nous faisons subir à l'homme, que nous faisons subir à nous-mêmes, nous faisons partie de cette humanité, ou à nos frères ou à nos soeurs, à la nature également, et que généralement, cette nature ou les événements se vengent, c'est le terme que nous employons souvent, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de justice immanente dans ce que nous faisons. En fait, Dieu ne fait jamais que sauver, il ne sait pas faire autre chose. Et ce que nous appelons châtiment, c'est la manière dont nous percevons les événements à travers, au fond, notre culpabilité. Et ce que nous appelons justice immanente, c'est une manière de percevoir les événements. Les événements qui nous perturbent, les événements qui nous blessent. Et ces événements qui nous perturbent, qui nous blessent, nous renvoient, au fond, l'image de nos propres agressivités. Et donc, l'Apocalypse est vraiment une révélation de ce que nous sommes nous-mêmes et de la manière dont nous nous situons dans notre existence. La conséquence conséquence de notre refus du Christ, miséricordieux et sauveur, c'est précisément Jésus crucifié. Et cette croix, ce crucifix, que nous plaçons dans une maison, que nous plaçons au bord des champs, dans la campagne, dans la ville aussi, ces crucifix nous rappellent précisément cette présence du mal qui existe dans le monde et dont nous sommes très souvent, la plupart du temps, solidaires. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Cette phrase que nous trouvons à la fin du chapitre 19e de Saint Jean, au moment où Jésus vient d'être crucifié, cette phrase est reprise du livre de Zacharie, au chapitre 12e, et qui nous montre un prophète qui a été massacré à cause de ce qu'il disait, à cause de la force de sa parole. Et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, c'est-à-dire que en voyant ce qu'ils ont fait, en voyant ce prophète transpercé, ils prendront conscience de leurs actes. Et au fond, c'est ce que l'Apocalypse veut nous faire percevoir. Comment la vision de Jésus crucifié nous renvoie une difficulté à vivre cette réalité en véritable, cette réalité de notre monde, de notre histoire, en véritable solidarité les uns avec les autres. Et donc, c'est essentiellement cela que nous dit l'Apocalypse. Mais vous avez bien compris qu'il s'agit d'un approfondissement progressif. On ne se rend pas compte de cela tout de suite. On ne comprend pas immédiatement. Il faut déjà entrer dans une perspective et nous rendre compte de ce qu'est d'abord cette humanité, de la manière dont nous en sommes vraiment solidaires et d'où elle va. Alors, nous avons une des situations qui se pose souvent dans le monde, l'effondrement d'une civilisation et la chute d'une ville. Bon, ça s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire. Vous prenez la ville de Jérusalem, elle a été détruite 18 fois. 18 fois détruite, 18 fois reconstruite. Et ça n'est probablement pas encore terminé. Et donc la ville symbolise toujours une civilisation. Et donc ces chutes de ville, ces destructions de ville, dont on nous parle dans les évangiles à propos de Jérusalem, comme à l'intérieur de l'Ancien Testament, toutes sortes de villes importantes de l'Ancien Testament, monde antique, et qui sont, d'une manière ou d'une autre. Il est étonnant, par exemple, lorsque on va faire un voyage dans la Turquie de l'Ouest, du côté d'Éphèse, et on se remémore un peu ce qui était non pas seulement les civilisations de l'Asie mineure, mais les églises qui étaient florissantes. Ces églises, on parle des premiers chapitres de l'Apocalypse. Et il ne reste plus rien. Plus rien du tout. Il n'y a plus de traces. Il y a encore quelques ruines, mais il n'y a plus de traces vivantes de ces églises anciennes. Et ça pourrait arriver chez nous aussi. Nous devons bien nous en rendre compte. Et c'est la prise de conscience de cette relativité de notre histoire humaine que nous avons dans l'Apocalypse. Alors nous avons parlé de la grande prostituée, la fois passée, cette grande prostituée qui était une image prise aussi à l'Ancien Testament. La grande prostituée, c'était Babylone, parce que c'était la ville qui symbolisait vraiment le luxe d'autrefois, la richesse, l'importance. Et cette ville a été tout à fait détruite. On est entrés, les Mèdes et les Perses sont entrés en 322 Mon cœur s'égare, le tremblement me terrifie, le crépuscule auquel j'aspirais devient ma terreur. C'est le prophète qui parle. On dresse la table, on la couvre d'une nappe, on mange, on boit. Debout, capitaine, graissez le bouclier. Au bon moment où tout le monde est en train de festoyer, voici les armées qui se présentent. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place le guetteur qui annonce ce qu'il voit. S'il voit de la cavalerie, des cavaliers deux par deux, des hommes montés sur des ânes, des hommes montés sur des chameaux, il fasse attention, bien attention. Le voyant a crié, sur la tour de guet, Seigneur, je me tiens tout le jour à mon poste de garde, je reste debout, debout toute la nuit. Et voici que vient la cavalerie, les cavaliers deux par deux, ils m'ont parlé, ils ont dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Toi qu'on foule sur l'air, toi qu'on écrase, ce que j'ai appris du Seigneur des armées, du Dieu d'Israël, je te l'annonce. Elle est tombée, Babylone. Et quand il nous rappelle cela, l'auteur de l'Apocalypse, il pense évidemment que nous avons tout cela aussi dans la mémoire, que nous connaissons cet Ancien Testament et ce prophète que nous avons lu et relu. Mais évidemment, aujourd'hui, nous avons d'autres choses à côté et d'autres choses qui nous prennent le temps et l'attention. Alors oui, c'est cette idée, c'est la manière aussi dont les textes des prophètes nous manifestent cette venue en force des ennemis de Babylone. Et puis, le texte continue. Puis j'entendis une autre voix qui disait du ciel, toujours du ciel, comme vous le savez, « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Qu'on la paye de sa propre monnaie, qu'on lui rende le double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, qu'on lui mélange une double dose. À la mesure de son faste et de son luxe, qu'on lui donne tourment et malheur. Je trouve en elle, se dit-elle, que je ne suis pas veuve. Et jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle. Peste, deuil et famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. Mais c'est une manifestation de ce que nous appelons la justice immanente. Elle a cherché le pouvoir, mais il y en a d'autres qui sont jaloux de ce pouvoir, et qui vont tomber sur elle et la détruire de bon temps. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé un certain nombre de fois dans l'histoire du monde, et c'est ce qui se passe encore. Ce qui va se passer, c'est imminent, avec Rome, Rome qui est au fait du pouvoir. Et alors, vous avez une lamentation sur Babylone. Je viens de vous lire le chapitre, une partie du chapitre 21 d'Isaïe. Je vous lis encore un autre texte, probablement antérieur à celui-là, sur la mort d'un tyran. Vous trouvez cela au chapitre 13 contre Babylone et au chapitre 14e du même Isaïe. Mais vous verrez tout de suite pourquoi je vous lis un petit passage. Le Shéol souterrain. C'est-à-dire le grand frigorifique central. Le Shéol souterrain s'émeut à ton propos. À quel propos? Ah, comment a-t-il fini le tyran? Comment a fini son arrogance? Le Seigneur a brisé son le bâton des méchants et le sceptre des souverains, lui qui rouait les peuples avec rage de coups multiples, qui dominait furieusement les nations, les persécutants sans répit. Je vous ai dit que la violence est autophage. Elle se suicidaire, elle se mange elle-même. Le Shéol souterrain s'émeut à ton propos pour venir à ta rencontre. Tous les potentats de la terre, en ton honneur, sont réveillés. Il fait lever leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te déclarer, te voilà toi aussi, anéanti comme nous. Tu nous es devenu semblable. Ton faste est précipité au Shéol avec la musique de tes harpes. Sous toi s'étend un matelas de vermine, te voilà couvert de barbe. Et alors, ce verset 12 du chapitre 14e, comment tu es tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté par terre, toi qui vassalisais toutes les nations? Fils de l'aurore, c'est Lucifer, celui qui porte la lumière, la première étoile de l'aurore. Eh bien, le Lucifer, c'est pas bien. C'est l'orgueilleux. C'est l'orgueilleux qui se monte lui-même et puis qui tout d'un coup déchoit. Toi qui disais en ton cœur, j'escaladerai les cieux, par-dessus les étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, dans les profondeurs du Nord. Je monterai au sommet des nuages noirs, je ressemblerai au Très-Haut, qui est semblable à la bête, je ressemblerai au Très-Haut. Comment te voilà tombé au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme? La chute des grands. Elle est tombée, Babylone, et tu es tombé, réduite à rien. Et alors vous avez cette lamentation, encore dans le livre d'Isaïe, au chapitre 47e, vous avez ce petit texte qui reprend justement Babylone dans ce personnage féminin que nous avons déjà vu dans l'Apocalypse. Ah, assieds-toi dans la poussière, viens, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, détrônée, fille des Chaldéens, car on cessera de t'appeler la douce, l'exquise. Prends les meules et broie la farine, dénoue ton voile, relève ta traîne. Découvre tes jambes, passe les ruisseaux, découvre ta nudité, qu'on voit ta honte. Je vais me venger et personne n'interviendra. Notre Rédempteur, c'est le prophète qui parle, dont le nom est le Seigneur des armées, le Saint d'Israël, dit « Assieds-toi en silence et glisse-toi dans l'ombre, fille des Chaldéens, car on cessera de t'appeler souveraine des royaumes. » Méditation sur la chute des grands de cette terre. Nous passons. Notre mort, là, elle est présente tout près de nous. Et alors, nous retrouvons cette même histoire de Babylone, car les prophètes rivalisent, mais utilisent souvent les mêmes images, mais ils rivalisent de poésie pour dire la chute des grands. Et vous avez au chapitre 25e, Babylone, qui est considéré comme le fléau du Seigneur, c'est l'instrument que le Seigneur utilise pour châtier Israël, qui s'est prostitué elle aussi, en idolâtrie. C'est pourquoi, c'est au chapitre 25e, Jérémie, ainsi parle le Seigneur des armées, puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, voici que j'envoie chercher toutes les familles du Nord, c'est du Nord que viennent des invasions, oracle du Seigneur, autour de Nabucodonosor, roi de Babylone, car c'est lui qui est venu détruire Jérusalem, mon serviteur, tous sont serviteurs, d'une manière ou d'une autre. Et je les amènerai contre ce pays et ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour. Je les frapperai d'anathème, j'en ferai pour toujours une épouvante, une risée et un opprobre. Je ferai disparaître chez eux les cris de jubilation et de joie, les appels du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. tout ce pays sera réduit en désert et dévasté, et ils resteront en servitude parmi les nations pendant 70 ans. C'est aussi Israël, Jérusalem, qui disparaît avec Nabuchodonosor. Mais le fléau de Jérusalem, c'est-à-dire Babylone, devient elle-même la proie d'autres prédateurs. Et vous retrouvez alors, au chapitre 50 et 51e de Jérémie, vous retrouvez alors, de nouveau, cette chute de Babylone. Avec le Rédempteur, il y a toujours un Rédempteur. Le Seigneur est toujours le Sauveur, toujours. Ainsi parle le Seigneur des armées, je suis au chapitre 50e de Jérémie, au verset 33. Les enfants d'Israël sont opprimés. Tous ceux qui les ont fait captifs les tiennent, ils refusent de les lâcher. Mais leur Rédempteur est puissant, le Seigneur des armées, voilà son nom. Il a pris en main leur cause, il va donner du repos au monde, mais faire trembler les habitants de Babylone. C'est la loi du pouvoir. Le pouvoir qui se met en avant sera aussi facilement détruit. Et alors, vous avez de nouveau le Seigneur contre Babylone, vous pouvez lire tout le chapitre 51, je n'ai pas le temps de reprendre avec vous, mais voilà un peu d'où vient l'inspiration de notre auteur. Et puis, il y a ce fameux passage contre la ville de Tyr, dont je vous ai rendu le mot la fois passée. C'était la capitale internationale du commerce. Tout le commerce de Méditerranée arrivait jusque-là. La ville de Tyr s'était enrichie, effrontée. Et voilà que cette ville de Tyr est prise par Alexandre, et s'effondre elle aussi. Une civilisation de commerce florissante est toute la tombe. Fils d'homme, parce que Tyr a dit contre Jérusalem, ah, elle va la briser, la porte des peuples. Elle se tourne vers moi. Sa richesse est dévastée. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, voici que je me déclare contre toi, Tyr. Je vais faire monter contre toi des nations nombreuses, comme monte la mer avec les flots. Elles détruiront les murs de Tyr, abattront ses tours, j'emballerai la poussière et j'en ferai approcher nu. Elle sera au milieu de la mer un séchoir pour des filets. Car moi j'ai dit au règne du Seigneur Yahvé, elle sera la proie des nations. Quant à ses filles qui sont dans la campagne, c'est-à-dire à toutes les petites villes qui dépendaient de la ville de Tyr. Quant à ces filles, elles seront tuées par l'épée, et l'on saura que je suis le Seigneur. Car voici que j'envoie contre Tyr venant du nord, Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des rois avec ses chevaux, des chars, des cavaliers, une troupe de gens nombreux, etc. Et puis il y a cette lamentation, la complainte sur la chute de Tyr, au chapitre 27e, j'étais au chapitre 26e d'Ézéchiel, et bien vous pouvez lire le 27e et le 28e, ils sont de la même encre. Tyr, toi qui disais, je suis un navire merveilleux de beauté, en haute mer s'étendait ton empire, tes constructions t'ont faites merveilleuses de beauté, en si près de Sénir, ils ont construit tous les bordages, ils ont pris un cèdre de Liban pour te faire un mât, des plus hauts chênes du Bachan, ils ont fait des rames, ils ont fait un pont d'ivoire incrusté dans du cèdre, des îles de Kikim, etc. Une description extraordinaire comme un grand Titanic. Le Titanic aussi a son prix. Donc c'est une méditation, une élégie sur la vanité des réalités terrestres, les plus grandes. Et il y a dans cette complainte sur la ville de Tyr, vous avez ce petit passage que je vous lis encore, au chapitre 27e. Tu étais donc riche et glorieuse au cœur des mers. En haute mer, tu fus conduite par tes rameurs. Le vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchandises et ton fret, ton équipage et tes marins, tes ramoureurs, les courtiers de ton commerce et tous les hommes de guerre que tu portes et toute la multitude qui est à ton bord vont couler au cœur des mers le jour de ton naufrage. En entendant le cri de tes matelots, les rivages trembleront, alors descendront de leurs bateaux tous les rameurs, les ramins, les marins, tous les gens de mer resteront à terre, ils feront entendre leur voix à ton sujet, ils crieront amèrement, ils se jetteront de la poussière sur la tête, ils se rouleront dans la cendre, ils se raseront le crâne à cause de toi, ils se ceindront de sac, ils exhaleront sur toi, dans leur désespoir une plainte amère. Ils diront sur toi dans leur deuil une complainte, ils se lamenteront sur toi. Qui était comme tire l'orgueilleuse au cœur des mers, lorsque tu débarquais tes marchandises pour rassasier tant de peuples par l'abondance de tes richesses et de tes denrées, tu as enrichi les rois de la terre. Et maintenant, tout cela a sombré. Donc voilà un peu de cette inspiration de ce poète qui est aussi Jean, l'auteur de l'Apocalypse. Donc, méditation sur la chute des grands empires. Méditation, au fond, aussi sur notre destinée. Notre destinée n'est pas toute puissante. Nous avons certains temps d'existence. Et qu'est-ce qui fait notre valeur? Qu'est-ce qui donne consistance à notre vie? Maintenant, je vous prends la fin de la méditation sur l'effondrement de Babylone, la prostituée célèbre. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenue à distance par peur de son supplice. Hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugé. Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre. Les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne les achète. Cargaisons d'or et d'argent, de pierreries, de perles, de lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, et les bois de tuyard, et les objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, de bronze, de fer, de marbre. Le cinnamome, l'amande et le parfum, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les voitures, les esclaves et la marchandise humaine. Même les grands constructeurs de voitures s'en vont et se délocalisent. C'est tout cela qui est dit dans la vérité. Nous vivons des choses analogues, bien sûr, de notre époque. Et les fruits mûrs que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi. Et tout le luxe et la splendeur, c'est à jamais fini pour toi, sans retour. Les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance, par peur de son supplice, pleurant et gémissant, hélas, hélas, immense cité, vêtue de lin, de pulpe, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles, pour rappeler à tous les atours la prostituée sur sa bête rouge sang, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Capitaine, les gens qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance et criaient, regardant la fumée de ses flammes, qui donc était semblable à l'immense cité, et jetant la poussière sur leur tête, vous entendez ce que j'ai dit tout à l'heure, Il s'écriait pleurant et gémissant, hélas, hélas, immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer, car une heure a suffi pour consommer sa ruine. Au ciel, son allégresse sur elle, et vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a jugé votre cause en la condamnant. De quoi s'agit-il? Donc il s'agit d'une lamentation sur cette richesse humaine qui passera avec le reste. Et plus elle se fait grande, plus elle se donne du lustre, plus elle tombera bas. Annonce de la chute de Babylone. Et méditant sur cette chute de Babylone, c'est-à-dire de Rome, elle est imminente, nous dit l'auteur de l'Apocalypse, elle n'est pas encore arrivée lorsqu'il en parle. Nous sommes à peine à la fin du premier siècle, il faudra encore attendre au moins deux siècles pour que le déclin se fasse davantage sentir. Mais voilà ce qui s'est passé pour Babylone, ce qui s'est passé pour d'autres villes anciennes, comme la Syrie par exemple, eh bien, se passera aussi pour Rome. Et puis, il y a cette invocation au ciel. Voilà tout d'un coup qu'au milieu de cette réalité humaine, terrestre, horizontale, néanmoins aujourd'hui, voilà un élan vers le haut, au ciel. Soit dans l'allégresse sur elle, et vous saints, apôtres et prophètes, car Dieu a jugé votre cause en la condamnant. Ce qui est condamné, ce n'est pas la civilisation. C'est une civilisation qui veut le pouvoir pour lui-même. C'est une civilisation de profit. Ce qui est condamné, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation du profit, qui se base sur la violence, bien sûr, regardons le Darfour, qui se base sur l'économique, sur les banques, qui se base également sur la politique, le pouvoir, la soumission, l'exploitation. Alors que les hommes sont faits pour s'entraider, pour construire ensemble une civilisation qui soit ouverte et accueillante pour chacun, dans la justice et le droit, eh bien chacun veut le pouvoir pour lui-même. C'est cet orgueil-là qui est vitupéré par le prophète Yeshua. Cet orgueil. Ce ne sont pas les hommes. Mais il nous fait entendre qu'il y a toujours des hommes qui écopent et que si l'hémisphère nord vit de façon agréable, s'il vit un certain bien-être, c'est que de l'autre côté, l'hémisphère sud est exploité et vit dans la misère. Il nous fait réfléchir sur cette réalité simplement humaine. Et donc au ciel soit dans l'allégresse. Pourquoi? Mais parce que le ciel a découvert la véritable valeur de ce que nous vivons, c'est cette présence de Dieu au cœur de notre existence humaine, au cœur de nos civilisations, mais à laquelle nous ne faisons plus attention. Un ange puissant prit alors une pierre, comme une grosse meule. Et la meule est justement quelque chose d'important dans la Bible. C'est la dernière chose, lorsque, par exemple, nous avons quelqu'un qui est insolvable, c'est la dernière chose à lui enlever, c'est sa meule. Parce qu'il ne peut plus moudre son grain, et donc il ne peut plus faire cuire son pain, il ne peut plus vivre. Donc la meule, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre. Eh bien, il prit une grosse meule et la jeta dans la mer en disant ainsi, d'un coup, on jettera Babylone. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de notre pain? Qu'est-ce que nous faisons de notre eau? De tout ce qui nous nourrit, qu'en faisons? Ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus. Que faisons-nous de notre monde? Le chant des harpistes, il est trouvable, et les joueurs de flûte ou de trompette, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Les artisans de tout métier, chez toi, ne se verront jamais plus. Et la voix de la meule, chez toi, ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi, ne brillera jamais plus. Et voyez comment il a repris ce que je vous ai dit tout à l'heure de Jérémie et d'Ézéchiel. La voix du jeune époux et de l'épousé, chez toi, ne s'entendra jamais plus. Car tes marchands étaient des princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé toutes les nations. Tu as attiré tout le monde par ton luxe. Et c'est en elle que l'on a vu le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Bien sûr, il s'agit des prophètes et des saints, il s'agit des prophètes de l'Ancien Testament qui ont été la plupart du temps massacrés parce qu'ils dérangeaient. Et les égorgés de la terre, il s'agit de tous ceux qui ont été corrompus, de tous ceux que l'on exploite. Donc c'est une situation de toujours dont parle l'Apocalypse. Il l'applique à la Rome de son époque, mais c'est une réflexion sur ce que nous faisons de notre monde et des valeurs auxquelles nous nous accrochons. Et donc ça se termine, nous voyons que tout est en contraste ici, la grandeur de Babylone s'éteint. Et ça se termine dans le deuil et puis tout d'un coup dans l'allégresse. L'allégresse parce que la vraie valeur, celle qui est au ciel, celle qui est la présence de Dieu, va se manifester à l'intérieur même de cette désolation. Et c'est ce qui se passe dans notre existence aussi. Lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans un creux, comme nous disons, il y a toujours une réalité qui se cache et que nous avons à exhumer en quelque sorte, à laisser pousser, dirais-je, davantage. Et alors nous pouvons lire le début du chapitre 19e. Après quoi j'entendis. Et vous aurez remarqué qu'il y avait des j'entendis, je lis descendre du ciel au début du chapitre 19e. Puis au verset 4 du chapitre 18, puis j'entendis que ça se passe dans un grand charivari. Après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait. Et on est monté maintenant. On s'est élevé immédiatement de cette réalité terrestre, on est monté au ciel. C'est comme si la caméra quittait cette réalité de la terre. Vous dites, mais où est la véritable valeur? Un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait Alléluia! Louez Dieu! Alléluia! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui perdait la terre par cette prostitution et vengeait sur elle le sang de ses serviteurs. C'est une manière, évidemment, de dire hein, que la vengeance de Dieu, c'est-à-dire que la puissance se révolte contre elle-même. Celui qui est puissant va être mis à mort. C'est la spirale de la violence, comme l'écrivait dans le Pierre Camara. C'est la même réalité. Ce n'est pas Dieu qui se venge, ce sont les hommes qui se vengent. entre les uns les autres en reprenant toujours cette spirale de la violence. Au lieu de se mettre d'accord, au lieu de construire ensemble, au lieu de partager tout ce qu'ils ont, ils veulent prendre pour eux. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. Et c'est justement ce cri, Alléluia, que nous trouvons surtout dans les psaumes à partir du psaume 107 jusqu'au psaume 150. Nous trouvons ces Alléluia qui reviennent constamment. Hein, invitation à nous et Dieu, mais qui devient lui-même le cri de la louange. Alléluia. Salut et gloire et puissance à notre Dieu. Salut, il est d'abord sauveur. Et gloire, il est le rayonnement de l'amour, c'est ça la gloire. Et gloire. Et puissance, non pas une puissance de soumission, mais une puissance de service. Salut, gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Nous avons vu que l'idolâtrie était menteuse. L'idolâtrie, c'est se donner une façade que l'on n'a pas. C'est se donner un visage que l'on n'est pas. Ces jugements sont vrais et justes. Dieu nous remet dans la vérité et dans la justice. La justice, c'est toujours l'ajustement au réel. Et le réel, c'est tout, toute la réalité. Dieu, d'une part, nous-mêmes et les autres. Il a jugé la prostituée fameuse qui perdait la terre par cette prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis, il reprit. Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Cette fumée qui s'élève pour les siècles des siècles est reprise au chapitre 34e encore d'Isaïe, qui est la chute d'Édom. Édom, qui était un petit royaume à l'est d'Israël, Édom, c'est le symbole du profiteur. Il profite toujours d'un peuple qui tout d'un coup a un creux, il profite pour tomber dessus et pour lui voler tout ce qu'il a. C'est le rasieur par excellence. Sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Et la fumée qui s'élève pour les siècles des siècles est prise comme si c'était un sacrifice. Un sacrifice dont la fumée monte vers le ciel. Alors, les 24 vieillards qui symbolisent toute l'histoire du salut, et les 4 vivants qui symbolisent la création, se prosternèrent pour adorer Dieu qui siège sur le trône en disant Amen. Alléluia. En retrouvant à l'intérieur de ce qui se passe dans le monde cette présence intérieure de Dieu qui est silence. Au-delà de tout ce bruit, de tout ce grand charivari, au-delà même de cette Alléluia qui monte, il y a cette présence anonyme de Dieu. Dieu se laisse deviner. Il ne s'impose pas. Il lui voit partie du trône. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez. Louez notre Dieu, c'est la traduction simple de Alléluia. Alléluia. Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. Retrouvez cette valeur intérieure qui vous habite. Retrouvez au fond de votre être cette présence de Dieu. Alors, j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents orages, ce qu'il y a de plus grand et de plus important comme voix. Vous entendez à la fin d'une célébration un orgue qui s'est se déchaîne. On clamait Alléluia, car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu Maître de tout. Et prendre possession de son règne, ce n'est pas du tout soumettre les peuples comme le font les nations du monde. Prendre possession de son règne, c'est un silence ténu, hein, comme le dirait l'histoire d'Élie, le prophète, un silence ténu au cœur de notre existence. Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Voici que nous sommes invités à quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes invités à des noces. Et voyez le contraste, la chute de Babylone et puis des noces. Une petite noce toute simple, une petite noce de village. Les noces de l'amour. Et son épouse s'est faite belle. On nous dit qui est l'agneau, on ne nous dit pas encore qui est l'épouse, mais son épouse s'est faite belle. Elle aussi. Et voyez que tout ce qui avait été dit de la grande prostituée est une parodie de ce qui va venir maintenant. On lui a donné de se revêtir de lin et d'une blancheur éclatante. Elle n'est plus couverte d'écarlate couleur du sang. Ce n'est plus la violence, c'est la tendresse. On lui a donné de se revêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des fidèles. Il faut aller voir tous ces gestes petits, anonymes, discrets, qui se font dans le monde. Ces naissances, ces tendresses autour d'un berceau, ces confidences amoureuses, ces constructions petites, pauvres, simples, qui sont la vraie grandeur. Puis il me dit, écris, heureux les gens, le genre est de trop, heureux les invités au festin des noces. Nous sommes invités au festin des noces de l'agneau. Ce n'est pas du tout grandiloquent, ce n'est pas un luxe effréné, c'est la simplicité de notre existence. C'est pour ça qu'on ne dit pas encore qu'elle est l'épouse, pour que chacun, chacune, puisse se sentir appelé à vivre ces noces de l'agneau. C'est le quatrième heureux de l'Apocalypse. Il y en a sept en tout. C'est le central. Heureux les invités au festin des noces. Vous vous rappelez, dans la dernière des lettres aux églises de l'Apocalypse, si nous reprenons la finale de la lettre, la septième lettre à Laodicée, nous avons ceci. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Voilà que Laodicée et nous-mêmes, à travers cette lettre, nous étions appelés à une intimité extraordinaire avec cette présence de l'agneau, du vainqueur, de Jésus. Et voici que nous aboutissons à cette réalité même, et qui est universelle, qui est pour chacune, pour chacun. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas des choisis. Elle est pour tout homme, pour toute femme. Et heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et comme nous sommes lecteurs, nous sommes invités. Puisque c'est écrit, l'invitation nous est transmise. C'est le texte même. C'est parole de Dieu ajouta-t-il, sont vrais. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Ah. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Que vient faire ce verset 10 à cet endroit? Comme si l'auteur de l'Apocalypse allait se méprendre, comme si le prophète Jean allait se méprendre et au lieu d'adorer le Seigneur Dieu qu'il invite justement au festin des noces de l'agneau, comme s'il allait se méprendre et adorer l'ange qui lui parle. Mais ce verset est très important parce qu'il est à l'intention du lecteur, bien entendu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien sûr que Dieu est le seul à adorer, alors que nous adorons quantité de choses. J'adore. Le ministère des anges symbolise justement toutes ces médiations créées. Nous ne sommes pas des anges, mais souvent, nous avons à faire leur job. Mais il faut discerner la vraie réalité de Dieu au-delà des médiations. Tout ce qui nous est donné sont des médiations de Dieu. Tout peut devenir angélique dans notre monde, si nous le désirons, si nous les utilisons bien. Nous sommes souvent tentés de prendre la médiation pour la véritable réalité. Nous prenons la médiation pour Dieu lui-même. Or, les médiations n'ont de consistance que par Dieu. Lire l'Apocalypse pour découvrir des prédictions concrètes, des choses qui vont nous arriver, ou bien collectivement, ou bien personnellement, c'est au fond vouloir accaparer la grâce de Dieu. C'est vouloir l'attirer à soi. C'est écouter l'ange et l'adorer pour lui-même, au lieu d'adorer Dieu. Voyez que tout ce chapitre que nous venons de lire au sujet de la chute de la prostituée sacrée, l'effondrement de Babylone et l'invitation à faire partie de ces noces de l'agneau, de venir non pas en spectateur, mais pour partager le festin des noces de l'agneau, tout cela c'est une seule et même réalité. Comment Dieu dans ce monde peut-il être présent dans l'homme comme dans l'autre? Présent dans l'homme pour nous dire l'autre. Voilà un peu ce cheminement que nous venons de faire et qui nous invite à passer, comme le dirait saint Ignace, de la troisième en quatrième semaine, de découvrir l'importance de la résurrection, c'est de cela que nous allons devoir parler maintenant, l'importance de la résurrection dans notre monde d'aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'il soit meilleur. Comment est-il présent, le vivant, dans notre monde d'aujourd'hui? C'est ce que je vous invite à prendre pour la semaine prochaine. Nous verrons alors la fin du chapitre 19e et le chapitre 20e. Nous acheminons doucement vers la fin. Je ne sais pas si madame, vous avez encore quelques CD. Il y a des CD qui ont été demandés. Et la fois prochaine, on nous dira un petit coup le programme qui va être projeté pour l'an prochain.